VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Morgane Guiriec et Abdourahmane Dia en direct de la capitale américaine. Mercredi 9 janvier 2019, Le Monde Aujourd'hui, édition de 19h30, temps universel. Au sommaire ce soir.
En République démocratique du Congo, la plénière de la CENI se poursuit toujours. Les résultats devraient être annoncés ce soir.
La CPI se prononce mardi sur la demande d'acquittement de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo.
Au Soudan, des partisans d'Omar el-Béchir manifestent leur soutien et la police disperse une nouvelle manifestation antigouvernementale.
Le shutdown entre dans son 19e jour aux États-Unis. Le président Trump s'est rendu au Congrès aujourd'hui.
Ne ratez pas l'actualité économique et les sports, mais tout de suite le journal.
La République démocratique du Congo retient son souffle dans l'attente des résultats de l'élection présidentielle du 30 décembre. La CENI, réunie en plénière, poursuit les délibérations. Les résultats sont attendus d'un moment à l'autre. Nous retrouvons Thierry Kamoundi de Top Congo FM, notre station partenaire. Bonsoir Thierry.
Bonsoir Morgane, bonsoir Abdou, bonsoir à tous.
Pourriez-vous nous dire où en sont ces délibérations ?
Ce n'est plus qu'une question de minutes, vient de me souffler à l'instant l'un des collaborateurs du président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaké, toujours avec les membres de la plénière de la CENI, enfermés dans l'un des bureaux de ce quartier général de la Commission électorale nationale indépendante. Entre-temps, dans la salle Apollinaire Malumalu, où doivent être annoncés les résultats provisoires de l'élection présidentielle, les journalistes ainsi que d'autres invités attendent toujours. Nous sommes là depuis plusieurs heures maintenant, mais on nous apprend, comme je l'ai dit tantôt, que ce n'est plus pour très longtemps. Je l'ai dit tout à l'heure, je le rappelle, cet appel de la Conférence épiscopale nationale du Congo, de la CIMOCEL et de l'Église du Christ au Congo, trois grandes organisations qui ont déployé des observateurs lors des élections le 30 décembre dernier, qui ont appelé au fair play et à la sagesse pour ce qui est des candidats et des différentes parties prenantes. Et la CENI a publié la vérité des urnes, appel lancé il y a quelques heures ici à Kinshasa, donc avant la publication de ces résultats très très attendus à Kinshasa comme en République démocratique du Congo.
Voilà, Thierry Kamoundi depuis Kinshasa, depuis le quartier général de la CENI qui suit ces élections pour nous. Merci beaucoup.
La Cour pénale internationale se prononcera mardi sur la demande d'acquittement et de mise en liberté provisoire de l'ancien président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, jugé pour crime contre l'humanité. Monsieur Gbagbo, 73 ans, est en détention depuis 7 ans à La Haye, où siège la CPI. Premier ancien chef d'État à avoir été remis à la Cour. Il est jugé pour des crimes commis pendant la crise post-électorale de 2010-2011, qui a fait plus de 3000 morts en Côte d'Ivoire.
Des pourparlers de paix entre Bangui et les groupes armés rebelles attendus depuis plusieurs mois en Centrafrique prendront place fin janvier au Soudan à l'initiative de l'Union africaine. Le président Touadéra a annoncé la tenue du dialogue direct entre le gouvernement et les groupes armés le 24 janvier à Khartoum au Soudan sous l'égide de l'UA, a tweeté cet après-midi Moussa Niebié, représentant de l'UA en Centrafrique.
Au Soudan, des centaines de manifestants ont acclamé le président Omar el-Béchir à Khartoum pour soutenir son pouvoir en proie à une contestation ces dernières semaines. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Ce rassemblement envoie un message à ceux qui pensent que le Soudan va finir comme d'autres pays, a déclaré le président Omar el-Béchir à ses partisans rassemblés à la place Green Yard. Les manifestants ont acclamé M. Béchir, accompagné de certains ministres, en scandant, je cite, « Dieu est le plus grand, Béchir, nous te suivons ». Cette manifestation est la première à Khartoum en soutien au président depuis le début du mouvement de contestation le 19 décembre. Non loin de la capitale, des policiers ont dispersé, à l'aide de tirs de gaz lacrymogènes, quelques 300 manifestants réunis à Omdurman. Le Soudan est en proie à un mouvement de contestation provoqué par la hausse du prix du pain et les pénuries. Les manifestations ont commencé dans plusieurs villes avant de gagner la capitale. Au moins 19 personnes ont été tuées et 800 manifestants arrêtés, selon les autorités. Amnesty International fait état de 37 morts.
La justice sud-africaine a rejeté la demande de mise en liberté de l'ex-ministre mozambicain Manuel Chang, arrêté le mois dernier en vertu d'un mandat d'arrêt des États-Unis. Il est accusé de conspiration à des fins d'escroquerie en ligne, fraude aux assurances et blanchiment d'argent pour avoir autorisé des entreprises publiques à contracter des prêts secrets qui ont plongé son pays dans une grave crise financière. Une centaine de millions de dollars de pots de vin ont été versés dans le cadre de ces prêts selon la justice américaine. Il risque une extradition vers les États-Unis.
8 gradés de l'armée et de la police ougandaise ont été inculpés devant un tribunal militaire pour avoir enlevé et illégalement rapatrié vers Kigali des réfugiés de nationalité rwandaise. Ils sont soupçonnés d'avoir remis de force en 2013 aux autorités rwandaises l'ancien garde du corps du président rwandais Paul Kagame, Joël Mutabazi et son frère Jackson Kalemera. L'Ouganda leur avait accordé l'asile politique et Human Rights Watch avait accusé Kampala d'avoir complètement échoué à protéger les deux réfugiés.
Les 49 migrants bloqués pour certains depuis plus de 2 semaines sur 2 navires d'ONG allemandes vont pouvoir débarquer à Malte, ceci après un accord pour les répartir dans 8 autres pays européens.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a effectué une visite surprise à Bagdad, nouvelle étape d'une tournée régionale visant à rassurer les alliés régionaux du soutien dans la lutte contre les djihadistes en dépit de l'annonce du retrait américain de la Syrie. Ekia Badou.
La question de la présence du groupe État islamique en Syrie, qui partage avec l'Irak des centaines de kilomètres de frontières, est d'une importance majeure pour Bagdad. Il y a 2 semaines, le président Donald Trump était venu rendre visite à des soldats américains près de Bagdad sans rencontrer un dirigeant irakien. Cette fois-ci, Mike Pompeo s'est entretenu avec le premier ministre irakien Adel Abdel Mahdi, son homologue irakien Mohamed Ali Al-Hakim et le président du Parlement avant d'être reçu par le président Barhan Saleh. Le conseiller américain à la sécurité John Bolton, en visite mardi en Turquie, a lui affirmé que les États-Unis allaient vérifier si le groupe État islamique a été vraiment vaincu avant un éventuel départ de Syrie. Mike Pompeo n'a pas évoqué de calendrier. Après la Jordanie et l'Irak, il doit se rendre en Égypte, à Bahreïn, aux Émirats arabes unis, au Qatar, en Arabie saoudite, à Oman et au Koweït, toujours pour assurer ses alliés après le retrait de la Syrie annoncé en décembre par le président Donald Trump.
Et justement, en Syrie, le groupe djihadiste Hayat Tahrir al-Sham, ex-branche syrienne d'Al-Qaïda, a signé un accord lui permettant de prendre de nouveaux territoires aux rebelles. Elle contrôle désormais 75% de la province d'Idleb et de ses environs, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme.
Arabie Saoudite, les forces de sécurité ont tué 6 personnes lors d'une opération dans la région de Qatif à majorité chiite. D'après les autorités, la cible, une maison, était un nid de terroristes dont les occupants planifiaient une opération criminelle imminente contre des projets de développement dans la zone de Qatif.
Et ici aux États-Unis, le shutdown se poursuit. De nombreux employés du gouvernement fédéral travaillent toujours sans salaire et les pourparlers piétinent entre la Maison-Blanche et les démocrates. Après son adresse à la nation hier, le président américain se rend demain à la frontière avec le Mexique. Les précisions de John Lindon.
Les négociations entre Donald Trump et les démocrates se poursuivent pour tenter de trouver une voie pour mettre fin au shutdown qui touche plus de 800 000 fonctionnaires fédéraux. Ce mercredi, le président américain a prévu participer à un déjeuner au Congrès avec les sénateurs républicains et devrait recevoir les élus des deux bords à la Maison-Blanche. Demain, il se rendra à la frontière sud pour rencontrer ceux qui, selon lui, sont en première ligne de ce qu'il appelle une crise de sécurité nationale. Le président Trump a tenté mardi de rallier les Américains à son projet de mur à la frontière sud, mais n'a fait aucune concession. Lors d'une allocution solennelle de 9 minutes depuis le bureau ovale, il a mis en garde contre les immigrants illégaux qui font couler le sang. Il a cependant renoncé à lancer une procédure d'urgence exceptionnelle et a encore une fois réclamé 5,7 milliards de dollars pour une barrière en acier plutôt qu'un mur en béton pour lutter contre l'immigration clandestine.
Et nous restons aux États-Unis. Le numéro 2 du ministère américain de la Justice, Rod Rosenstein, qui supervise l'enquête russe, devrait quitter son poste d'ici quelques semaines, d'après les médias américains. Après le limogeage du chef du FBI, James Comey, par Donald Trump, il avait nommé en 2017 le procureur spécial Robert Mueller pour diriger l'enquête sur les soupçons de collusion entre Moscou et l'équipe de campagne du milliardaire républicain lors de la présidentielle de 2016. Il avait notamment validé une perquisition au domicile de l'ancien avocat de Donald Trump, s'attirant ainsi les foudres du président qui dénonce sans cesse une chasse aux sorcières.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco présentée par Nani Talani.
Au Nigeria, la Banque centrale a injecté 210 millions de dollars sur le marché d'échange interbancaire dans le but de stimuler les liquidités et de réduire les pénuries de dollars. Elle a débloqué 100 millions de dollars pour le marché de gros, 55 millions de dollars pour les petites entreprises et les particuliers et 55 millions de dollars pour certaines dépenses telles que les frais de scolarité et les frais médicaux. En Tanzanie, le président John Magufuli veut que la Banque centrale commence à acheter de l'or du pays pour lutter contre la contrebande et construire des réserves à stabiliser la monnaie. Terminons avec la Banque mondiale qui table sur un ralentissement de la croissance mondiale à 2,9%. Dans un contexte où de nombreux poids lourds de l'économie globale semblent se refermer sur eux-mêmes, sur fond de guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis.
Et on enchaîne sur les sports avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Morgane, bonsoir à tous.
Attribution de la CAN 2019 à l'Égypte, l'Afrique du Sud dénonce une décision politique.
Techniquement, il n'y a pas de meilleur pays en Afrique que l'Afrique du Sud pour accueillir la Coupe d'Afrique des Nations, a déclaré Rachel Paul, chef par intérim de la Fédération sud-africaine, ajoutant « Nous n'avons pas de problème avec l'Égypte, mais avec la façon dont le processus d'attribution s'est déroulé ». L'Égypte a été préférée à l'Afrique du Sud pour accueillir la CAN du 15 juin au 13 juillet après le retrait du Cameroun pour cause de retard. Le président de la CAF, Ahmad Ahmad, a révélé que les deux candidats disposaient de bonnes infrastructures, mais a assuré que l'Égypte devançait son rival en termes de soutien politique de son gouvernement.
Cette attribution de l'organisation de la CAN 2019 s'est faite à Dakar en marge des CAF Awards.
Et oui, les meilleurs du football africain ont été célébrés dans la capitale sénégalaise. Notre correspondant à Dakar, Seydina Abagué, a assisté à la cérémonie.
Auteur d'une saison exceptionnelle, l'Égyptien a accueilli ce titre avec beaucoup de joie.
Ça me fait plaisir car c'était un rêve d'enfant. J'ai toujours rêvé de gagner ce trophée un jour et là je l'ai remporté à deux reprises. J'en suis vraiment fier. Je remercie ma famille, mes coéquipiers, mes amis et tous ceux qui ont contribué à ma réussite. Je le dédie aussi à mon pays, l'Égypte.
Le journaliste sénégalais Lamine Mandian Diédiou estime que la distinction de l'Égyptien est légitime. Cependant, il juge que Aliou Cissé, le sélectionneur national du Sénégal, méritait le trophée de meilleur entraîneur de l'année.
C'est le seul point où je ne suis pas d'accord. Peut-être qu'on lui a décerné cela parce qu'il a ramené le Maroc à la Coupe du Monde après 20 ans d'absence. Mais n'oublions pas qu'Aliou Cissé est l'entraîneur de la première équipe africaine au classement FIFA. Et Fernand n'est pas plus méritant qu'Aliou Cissé pour ce titre de meilleur entraîneur de l'année.
En plus des prix classiques des CAF Awards, la Confédération africaine de football a décerné le prix Platinum au président de la République du Sénégal, Macky Sall, pour service rendu au football africain. À Dakar, Seydina Abagué pour VOA Afrique.
Nous restons avec Seydina qui a promené son micro dans les rues de Dakar pour recueillir des réactions sur l'attribution du Ballon d'Or à Mo Salah et le prix de meilleur entraîneur au technicien français Hervé Renard, sélectionneur du Maroc, devant celui du Sénégal Aliou Cissé et Moine Chabani, entraîneur de l'Espérance Tunis.
Mohamed Salah a mérité le Ballon d'Or, mais je pense que la différence est jouée en équipe nationale parce que Mohamed Salah est plus performant en équipe nationale que Sadio Mané. Je voyais vraiment Aliou Cissé remporter le trophée de meilleur entraîneur. Vu que l'équipe nationale a terminé premier en Afrique.
J'ai comme l'impression que si Salah a gagné, c'est parce qu'il a été beaucoup plus méritant. Sadio est encore jeune, il a encore largement le temps de le faire. Hervé Lénard, Aliou Cissé, je n'ai pas compris sur quelle base ils ont fait leurs calculs pour mettre Hervé Renard en priorité.
Mohamed Salah a été beaucoup plus performant en 2018 que Sadio Mané, en marquant beaucoup plus de buts. Hervé Renard passe parce que le lobby marocain est mieux organisé que celui du Sénégal et que Aliou Cissé subit constamment un bashing au sein même de la population sénégalaise.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Abdourahmane Dia et Morgane Guerrier. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Place maintenant au dossier du jour.
La République démocratique du Congo est toujours dans l'attente des résultats des élections du 30 décembre. La CENI se réunit depuis hier en plénière qui précède l'annonce des résultats qui devraient tomber d'un moment à un autre. Cette institution est au cœur des débats donc, mais la CENI est-elle vraiment indépendante ? Idriss Fall, adjoint à Kinshasa, Christian Louza-Kweno, directeur de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
La Constitution consacre son indépendance. La Commission électorale nationale indépendante a un bureau composé de 7 personnes et une assemblée plénière. Les membres de ce bureau et de son assemblée plénière sont pour partie désignés par l'Assemblée nationale. 7 personnes, 4 de la majorité au Parlement et 3 de l'opposition. Une fois les membres investis, ils n'appartiennent plus à leur famille politique. C'est un peu comme les membres de la Cour constitutionnelle en France. Ils peuvent émaner du Sénat, ils peuvent émaner de l'Assemblée nationale, de la présidence de la République ou de la magistrature. À partir du moment où ils entrent en fonction, ils ne doivent leur nomination, leur présence qu'à cette CENI et de cette indépendance.
Ce qu'on appelle la plénière de la CENI, c'est quoi alors?
La plénière, c'est le bureau plus tout le système d'organisation de cette CENI. Le volet technique, le volet juridique, c'est le volet organisationnel et décisionnaire de la CENI, celle qui organise l'élection et celle de qui dépend le bureau. Le bureau de la CENI émane de la plénière.
Est-ce que Corneille Nangaa a la liberté de faire ce qu'il veut avant de proclamer des résultats? Est-ce qu'il y a au minimum de contrôle des partis d'opposition qui sont présents au sein de la plénière?
Pour ceux qui ont en mémoire ce qui s'est passé en 2011, lors de la précédente proclamation des résultats, il ne peut être proclamé de résultat tant que tous les membres du bureau ou tous les membres de la plénière n'ont pas signé le procès-verbal. En 2011, c'était notamment le cas du vice-président, membre du MLC, le parti de Jean-Pierre Bemba. Aujourd'hui, c'est pas le même membre, c'est vrai, partie prenante du bureau de la CENI, mais soutien au candidat Lamouka, Martin Fayoulou. Donc, aucune des décisions à rendre publique par la CENI ne le sera tant que tous les membres du bureau et de la plénière ne seront tombés d'accord là-dessus. Et en 2011, Jacques Njoli, alors vice-président, avait refusé de signer et on avait dû attendre 48 heures supplémentaires parce qu'il avait exigé que certains procès-verbaux au sortir des votes dans certains bureaux à l'intérieur de la République démocratique du Congo lui soient exhibés avant qu'il ne signe la réélection à l'époque de Joseph Kabila à la présidence de la République.
Pareil, aujourd'hui, l'UNC de Vital Kamerhe, que dans le ticket avec Félix Tshisekedi et aussi dans cette séance plénière.
Aujourd'hui, dans cette plénière, il y a le MLC, il y a l'UNC. L'UNC et il y a même l'UDPS. Même si l'UDPS, dont le représentant Jean-Pierre Kalamba, rapporteur de la CENI, a demandé depuis très longtemps à ce qu'il soit remplacé. Mais aujourd'hui, on peut noter que l'UDPS ne le reconnaît plus, mais l'UNC, donc le candidat Cash Félix Tshisekedi, et le MLC, le candidat Lamouka Martin Fayoulou, sont bien présents à cette commission électorale nationale indépendante.
Christian Louza-Kweno, directeur de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Raissa Girondin avec vous. Dans Washington Forum ce jeudi, la République démocratique du Congo, toujours dans l'attente des résultats de la présidentielle. Attendu le 6 janvier, les résultats ont été reportés sine die par la CENI. Son président Corneille Nangaa a déclaré que plus de la moitié des bulletins de vote avaient été compilés. Que penser de cette attente? Que pensez-vous de la pression de la Conférence épiscopale du Congo qui dit détenir d'ores et déjà le nom du vainqueur? Doit-on redouter des violences à l'heure du verdict? Nous attendons vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Washington Forum, ce jeudi à 19h en temps universel.
C'est officiel, la rencontre entre le pouvoir de Bangui et les groupes armés aura lieu le 24 janvier prochain à Khartoum, au Soudan. Décision issue cet après-midi de la rencontre du président centrafricain Faustin Archange Touadéra avec la mission conjointe UA, ONU et CEAC. Sur place à Bangui, la correspondance de Freeman Sipila.
Il aura fallu des mois de tractation pour que la date et le lieu de cette rencontre tant attendue soient dévoilés. Khartoum, capitale du Soudan, a été retenue sans doute à cause de sa proximité avec les régions nord-est de la République centrafricaine, contrôlées à 99% par des groupes armés de l'ex-Séléka, ce qui permettrait facilement le déplacement de certains chefs rebelles. La grosse préoccupation des centrafricains, c'est l'issue de ce dialogue sous les auspices de l'Union africaine, déjà que plusieurs revendications des 14 groupes armés du pays vont à l'encontre de la constitution centrafricaine et ne respectent pas les recommandations du Forum national de Bangui de mai 2015. Les centrafricains sont tout de même optimistes et attendent beaucoup de ces pourparlers.
J'aimerais à ce que les gens qui sont partis pour amener la paix en République centrafricaine, il faut qu'ils partent pour les intérêts des peuples centrafricains.
On attend beaucoup de choses vraiment de la part des leaders.
Avoir les mains sur les provinces qui ont été prises par les groupes rebelles pour permettre l'épanouissement du pays, c'est-à-dire que l'avancement du pays en termes économiques, parce que beaucoup des zones qui ont été bloquées sont les zones qui habitent le pays.
Avant l'annonce de la date et du lieu de ce dialogue avec les groupes armés, le président centrafricain s'était entretenu la semaine dernière avec les forces vives de la nation à Bangui. Faustin Archange Touadéra a réitéré son engagement à mener ces discussions dans le respect de la Constitution.
Pour ma part, l'initiative africaine pour la paix et la réconciliation nationale reste et demeure la seule voie de sortie de crise en République centrafricaine. Cependant, elle doit, voudrais-je le préciser, se dérouler dans le respect de la primauté de la Constitution et des recommandations pertinentes du Forum de Bangui du 10 mai 2015.
Pour Martin Zigele, député de la Nation et chef du mouvement de libération du peuple centrafricain, ces pourparlers doivent être inclusifs.
Quand vous allez à des discussions de ce type-là, rien ne vous interdit de constituer des collèges sages, entre guillemets.
La paix en Centrafrique, ce n'est pas une question de président de la République. C'est au moment où je suis en train de vous parler, j'ai des compatriotes qui sont en train de mourir certainement à Bakouma. Donc, ils ne peuvent pas comprendre que nous ne soyons pas tous ensemble pour pousser à la roue de la paix.
La société civile, qui n'entend pas aussi rester en marge de ces négociations, insiste sur l'impunité. Hervé Séverin Lindamo, coordonnateur d'une association des victimes.
Nous les victimes, nous avons à plusieurs fois demandé à l'État l'amnistie zéro, le respect du Forum de Bangui, le respect de la Constitution. Et aujourd'hui, dans ces échanges-là, le chef de l'État a été précis, il est derrière la Constitution, il respecte les accords du Forum de Bangui et qu'il y aura impunité zéro, et c'est ce que souhaitent même les victimes.
Freeman Sipila, Bangui, pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Bangui, c'est sur 101.7 FM en République centrafricaine.
Au Niger, une récente enquête Afrobaromètre indique que les conditions économiques du pays se détériorent pendant que le niveau de corruption augmente. Plus de 2/3 des Nigériens désapprouvent par ailleurs l'orientation actuelle du pays, selon la même enquête. Notre correspondant Abdulrazak Idrissa revient dans ce reportage sur le rapport d'enquête présenté à la presse par les initiateurs.
L'enquête a été commanditée par le laboratoire d'études et de recherche sur les dynamiques sociales et le développement local, LASDEL. Elle a concerné un échantillon de plus de 1000 personnes sur l'ensemble du territoire national. Ali Bako, chercheur au LASDEL, membre de l'équipe d'enquêteurs.
C'est des données des Nigériens du
plus profond du Niger, hein, même les zones où cités comme rouge, c'est-à-dire à savoir Diffa, le nord de Tillabéri. Toutes ces régions ont été concernées par les enquêtes et au total 1200 Nigériens ont été enquêtés, 600 femmes et 600 hommes pour avoir ces données-là. Les résultats, ils sont vraiment nombreux, hein. Tous les secteurs sont concernés, mais on fait une ou deux disséminations. La première dissémination, elle porte sur la corruption et les conditions socio-économiques des Nigériens. Vous avez vu que les perceptions des Nigériens par rapport à leurs conditions de vie sont assez pessimistes. On a plus de la moitié des Nigériens qui pensent qu'ils vivent mal et que les conditions de vie sont défavorables. Le deuxième point, c'est sur la corruption et on a vu plus de 60% des Nigériens pensent que l'administration nigérienne est corrompue.
Les résultats de l'enquête sont diversement appréciés dans l'opinion. Pour Abdoumaman Lokoko, acteur de la société civile, l'échantillon n'est pas représentatif.
Le rapport tel qu'il a été présenté, à mon avis, représente un échantillon très faible de la population du Niger, au point de consister en tout cas un élément qu'il faut réellement prendre en compte pour extrapoler, surtout par rapport à la gouvernance. À mon avis, vraiment, il faut peut-être prendre de la mesure avant de publier un rapport aussi grave, il faut le dire, que celui-là, qui risque, honnêtement, de désorienter le citoyen.
Soumaïla Abdoussadou, lui, est activiste. Il estime que ces résultats sont le reflet de la réalité que vivent les Nigériens.
Tous les Nigériens savent que ce pays marche à reculons. La corruption a fait du Niger son lit. Elle s'est installée confortablement dans notre pays. Si les Nigériens aujourd'hui, la majorité, pensent que leurs conditions de vie ne s'améliorent pas, ils ne croient pas à la gouvernance, c'est tout à fait normal. Puisqu'ils savent que tous ces élus qu'on nomme, c'est pour se sucrer, c'est pour s'enrichir, c'est pour voler. Et c'est dans ce chemin que nous sommes depuis toutes ces années-là. Ça n'a pas changé, ça ne fait que se répéter. Et malheureusement, ces dernières années, ça s'est dégradé, ça s'est amplifié.
Abdullah Razak Idrissa, à Niamey, pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Présenté au CES de Las Vegas, le casque Ergo Night de Ergotech vous propose d'apprendre à votre cerveau à dormir. Développé avec des neuroscientifiques et des experts du sommeil, le casque utilise une technique jusque-là uniquement accessible aux cliniques et à la recherche sur le sommeil. Sa commercialisation est prévue pour novembre. Azuma Compaoré a rencontré le fondateur de cette compagnie, Ergotech.
Eh bien, ça, c'est le casque qui vous permet d'apprendre à votre cerveau à mieux dormir. Alors, je suis avec monsieur Kirek Lelou, architecte, et c'est le CEO, le fondateur de cette compagnie. Et en quelque sorte, justement, ce casque a des senseurs, des capteurs ici, qui permettent justement de pouvoir calculer, de pouvoir représenter le chemin des ondes que vous émettez dans la journée. Et avec justement l'application qui vient avec ce casque, vous pouvez déterminer de façon régulière, chaque jour en tout cas, comment vous pouvez vous-même travailler à vous isoler toutes les différentes zones qui vous empêchent de dormir.
Il y a une personne sur trois environ qui souffre de problèmes de qualité du sommeil. La technologie sur laquelle s'inspire Ergonight existe depuis les années 2000. Elle est disponible dans les centres du sommeil, nécessite un équipement particulier assez conséquent. Et ce que Ergonight a fait, c'est miniaturiser la technologie pour faire en sorte que justement, ces trois exercices par semaine de 15 minutes, on puisse le faire à la maison de manière très simple, de manière très facile d'utilisation.
Comment ça se passe?
En fait, c'est un entraînement. Vous allez avoir l'application mobile. Okay. Donc, il faut être dans un environnement calme. Mm-hmm. Vous allez vous poser avec le casque. Ça dure 15 minutes. Et vous allez faire les exercices en regardant l'application mobile. Elle va lire les ondes cérébrales que vous émettez. Et c'est cette application qui va vous dire, justement, bravo, vous vous en sortez super bien. Ou à l'inverse, eh bien non, ça fonctionne pas. Il faut essayer une stratégie différente pour vous, jusqu'à ce que vous réussissiez à produire mieux ces ondes de la protection du sommeil.
Il faut absolument trois exercices, peut-on en faire plus?
Alors là, les études scientifiques ont démontré qu'en faisant ces trois exercices par semaine pendant 1 à 4 mois, on améliorait de 53% le temps pendant lequel on se réveille la nuit. Donc on va diviser par deux le temps de réveil nocturne.
L'objectif pour moi, ça va être de comprendre qu'est-ce qui fait que je gagne des points. Quelle est la stratégie qui fonctionne avec moi? Par exemple, dans mon cas, c'est de me mettre dans une bulle, d'essayer de couper mon cerveau de l'environnement extérieur. C'est là où ça fonctionne. Une fois que j'ai trouvé ma stratégie, eh bien je vais l'entraîner. Séance après séance, je vais gagner de plus en plus de points, essayer de pratiquer cette stratégie jusqu'à ce qu'elle devienne un réflexe et que par la suite, lorsque la nuit est venue, mon cerveau sache protéger mon sommeil.
Donc le casque lui-même s'appelle Ergonight et avec lui, vous allez pouvoir dit entraîner votre cerveau à mieux dormir. C'est un casque qui va coûter à peu près 700 $ et qui sera lancé bientôt sur Indiegogo. Vous pourrez avoir des réductions si vous allez sur le site Indiegogo pour participer justement à la fabrication justement de ce fabuleux casque. Apprendre à mieux dormir. Hein.
Merci beaucoup.
Allez, merci.
Allez, au revoir.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi à la mise en onde de Sim Souloumani, à la présentation Morgane Guériec et Abdourahmane Dia.
Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook. Rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité 24 sur 24. Au revoir.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wenpanga, Wayeguya Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Onde Courte, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
Bienvenue à